La presse nous dit ce matin, remarquez que c'est pas nouveau en soi, peut-être c'est le portrait le plus frais, là, mais que 84 % des policiers n'habitent pas le territoire de Montréal. Donc, si vous prenez ça à l'envers, seulement 16 % des policiers en uniforme habitent sur le territoire de la ville de Montréal. Yves Francoeur est le président de la Fraternité des policiers. Monsieur Francoeur, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcand.
C'est pas étonnant, là. C'est une tendance quand même qui existe depuis des années que les policiers de Montréal habitent ailleurs qu'à Montréal.
Ben effectivement, si je me trompe pas, c'est depuis 1987 qui a été inclus dans la convention collective suite à différents jugements de tribunaux que les policiers de Montréal, comme d'ailleurs, pouvaient habiter le lieu qu'ils voulaient.
OK. Comme président du syndicat, là, vous êtes là depuis longtemps, vous avez une expérience. Pourquoi les policiers majoritairement choisissent d'habiter ailleurs?
Ben, je vous dirais qu'il y a deux raisons principales. Je ne vous cacherai pas que la première raison, c'est une raison de sécurité. Peu importe le quartier, nos policiers ne sont pas intéressés à croiser, comme on dit dans l'article, à l'épicerie, au cinéma, ou à la pharmacie, des clients ne sont, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais ne sont pas intéressés à croiser lorsqu'ils sont accompagnés de leurs conjoints, conjointes ou de leurs enfants, des individus avec lesquels ils ont été en interaction dans le cadre de leur travail. C'est une première raison. Et la deuxième raison, je vous le cacherai pas, c'est l'aspect économique, là. L'équivalent d'une maison en banlieue, d'une belle maison, c'est le double du prix à Montréal, avec presque le double des taxes aussi. Et nos policiers débutent à l'embauche à un salaire d'un petit peu plus de 40 000 $. Donc, là, même, je vous dirais que dans les 16 % qui habitent sur le territoire, c'est souvent des policiers policières qui débutent et qui s'installent ensemble dans un logement pour partager les coûts, là, parce qu'honnêtement, un logement salubre et que du bon sens, là, en bas de 1500-1600 par mois à Montréal, là, il y en a à peu près pas.
OK, mais de façon générale, les conditions de travail des policiers sont bonnes, la rémunération est bonne, la retraite, par rapport à d'autres travailleurs, là, vous n'êtes pas à plaindre. Et malgré ça, vous me dites que des raisons économiques poussent les policiers vers la banlieue.
Ben moi, je vous le dirais, nous, juste la fraternité, on a une vingtaine d'adjointes administratives là, qu'on embauche à 50 000 $ par année. Et elles-mêmes ne demeurent pas pour la plupart sur le territoire, alors que nos policiers débutent à l'embauche, comme je vous dis, au début du 40 000 $ avec quelques primes, là, qui fait peut-être 46 000, 48 000 $ là. Et non, ça ne leur permet pas d'habiter des logements qui rencontrent leurs critères en termes de qualité okay. De localisation.
Vous, là, vous ne devez pas croire la thèse qui est citée dans le journal La Presse ce matin, voulant qu'il y a des preuves, là, selon des études, que le taux de criminalité baisse quand les policiers habitent dans le quartier où ils travaillent?
Écoutez, honnêtement, là, j'ai jamais vu d'études en ce sens-là. Honnêtement, je peux pas répondre. Là. J'ai de la difficulté à croire que dans une grande ville comme Montréal, que je demeurerais, moi, peu importe le quartier, là, plutôt qu'en banlieue, ça aurait un impact sur le taux de criminalité, parce que pour très bien connaître mes policiers et mes policières, c'est certain que lorsqu'ils sont en congé, que ce soit au soccer avec leurs enfants, ou au cours de danse avec leur jeune fille, la plupart du temps ne veulent pas être identifiés comme policiers. Je vous dirais, en bon Québécois, préfèrent passer entre le mur et la peinture, compte tenu des enjeux de sécurité. Fait que, personnellement, je suis porté à penser que ça aurait très peu d'impact si nos policiers demeurent en ville sur le taux de criminalité.
Mais en même temps, certains diront, puis là, j'ai vu ça dans les dernières campagnes électorales, quand tu vis en ville, tu connais la ville, Montréal, c'est pas la banlieue, c'est pas le même profil, c'est pas les mêmes gens, c'est différent, il y a de la criminalité différente qui s'exprime, puis quand on est policier, ben il faut vivre en ville pour savoir ce qui se passe. J'entends ça, là, Richard Bergeron, qui s'est présenté à la mairie, disait ça, lui, souvent.
Ben effectivement, c'est une conversation que j'ai eue à quelques reprises avec M. Bergeron, mais comme je vous dis, c'est certain que si nos policiers voulaient demeurer en ville, nos policiers voudraient aller demeurer dans des secteurs plus sécuritaires. Je vous cache pas que présentement, nos policiers ne voudraient pas demeurer dans le nord-est de la ville de Montréal, comme la plupart des citoyens qui ont les moyens de ne pas habiter ce coin-là. Là. Donc, c'est malheureusement la réalité, mais de là à croire, moi je vous dirais que souvent, nos policiers connaissent mieux leur secteur que la plupart des citoyens, même s'ils ne l'habitent pas.
OK. Justement, parlons des fusillades. Encore trois hier soir, toujours les mêmes secteurs, Montréal-Nord, Saint-Michel, quand c'est pas Rivière-des-Prairies, là. Vous en pensez quoi de ce qui se passe puis du travail de l'équipe qui a été formée là, pour justement tenter de faire des saisies d'armes puis d'arrêter des gens là, qui font du trafic d'armes?
Ben nous, on en pense que honnêtement que la direction du service de police fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'on leur donne parce que on a grandi par l'intérieur. Donc, si on met des effectifs au trafic des armes à feu, à la guerre aux gangs, on les retire d'ailleurs de la réponse 911, les appels prioritaires aux citoyens. Donc, ils font leur possible, mais malheureusement, ce qu'on voit arriver, c'est que, disons que, je pense pas que l'on soit prêt d'inverser le phénomène de la prolifération des armes compte tenu de notre proximité avec les États-Unis. Et non seulement ça, mais compte tenu de ce qui se passe depuis environ 5 ans en Ontario, que ce soit à Toronto ou à Ottawa, où les fusillades ont grandi de façon exponentielle, comme je vous dis, dans les 5 dernières années. Et malheureusement, La tendance va être très difficile à inverser et tous les criminologues le diront. Là, on a beau faire n'importe quoi, puis je suis le premier à dire et prêt que nos policiers le font, pourraient le faire de façon plus importante, mais travailler de façon plus étroite avec les organismes communautaires pour présenter de meilleurs modèles aux jeunes que l'argent facile et traîner dans la rue plutôt qu'aller à l'école puis travailler pour obtenir ce que l'on veut. Mais malheureusement, la tendance, avec ce que l'on voit se pointer là, et ce qui se passe juste à côté de chez nous, sera très difficile à inverser.
Bien, on l'a vu en fin de semaine à Toronto. Là, il y a encore eu un cas samedi. 3 enfants, un gars dans la vingtaine qui ont été atteints par balles, des coups de feu. Il y avait une fête à l'extérieur. Ça commence à faire beaucoup. Là. Puis là, le beau temps arrive à Montréal l'été. Vos policiers terrain, ils vous disent quoi là, sur ce qui se passe à Montréal-Nord, puis Rivière-des-Prairies, puis dans le quartier Saint-Michel?
Ben, nos policiers nous le disent, le constatent, là, disons que ça a pris du temps un petit peu avant que le service ait des statistiques parce que, comme l'a dit le rapport de la vérificatrice générale, les systèmes de Montréal sont désuets, là, mais nous, ça fait, je vous dirais, au moins 2 ans que nos policiers terrain nous le disent. On n'a jamais saisi, on n'a jamais vu autant d'armes à feu. Et là, on parle pas des armes à feu saisies sur des criminels aguerris, là. On parle d'armes à feu saisies sur des jeunes délinquants, là, des 14, 15, 16 ans. Là, c'est pour ça qu'il faut mettre l'emphase. Puis je vous le cache pas, la direction du service de police est de très bonne foi, veut faire beaucoup mieux. Mais il y a deux discours, il y a un discours concordant là chez les politiciens. Là. Oui, on veut, oui, on est d'accord, mais personne ne donne les moyens, que ce soit les caméras corporelles, là. Tout le monde est d'accord, tout le monde dit qu'on devrait en avoir, mais il n'y a pas personne qui veut payer parce qu'on parle d'un investissement de 25 millions la première année et d'un coût récurrent de traitement des données d'environ 20 millions par année par la suite. Fait que il y a un double discours dans la bouche des politiciens. Et nous, on demande des meilleurs outils pour travailler. Okay. Et je pense qu'avec des meilleurs outils, on va être plus efficace.
OK. Alors, je veux revenir sur, justement, parler d'images vidéo. Le jeune qui est immobilisé, il y a 2 policiers. Le genou est quelque part dans la région du cou, l'épaule. Vous en pensez quoi de ces images-là? D'abord, est-ce que c'est une technique pour arrêter, immobiliser quelqu'un qui est enseigné et recommandé?
Je peux pas vous dire. Là. J'ai vu que 3 experts se sont prononcés premièrement, mais moi, ce que je dois dire, là, c'est que nos policiers n'ont pas un travail facile. Moi, je vous mets au défi là, de maîtriser un individu de seulement 150 livres qui ne veut pas se faire maîtriser. Puis je vous cache pas qu'à un moment donné, l'adrénaline monte chez le policier, la policière, parce que le policier, la policière a une arme à feu sur lui et a des armes intermédiaires. Donc, arrive un moment où le policier craint pour sa vie à lui-même. Donc, effectivement, à ce moment-là, pour l'avoir vécu, tu prends les meilleurs moyens pour neutraliser la personne. Là.
Et dans ce cas-là, est-ce que les policiers se sentaient à ce point menacés par un kid de 15 ans?
Bien, moi, ce que je vous dis, puis je le répète, là, maîtriser un individu même de 150 livres, là, qui ne veut pas l'être, c'est pour ça que je dis que si, probablement que si on avait eu l'intervention vidéo filmée à partir du début. Les policiers ont demandé à l'individu d'obtempérer. L'individu a refusé. On a su par la suite qu'il y avait des individus armés autour. Donc, c'est un contexte. Quand on met les choses, quand on relativise les choses et qu'on les met en contexte, là, je suis convaincu que nos policiers ont bien travaillé, que notre policier a bien travaillé, malgré que, comme je vous dis, maîtriser un individu violent qui ne veut pas se laisser maîtriser, c'est pas toujours joli.
Quand vous entendez M. Legault dire qu'il aime pas vu, qu'il n'aime pas ce qu'il a vu puis qu'il n'aime pas les images, ça vous impressionne pas plus qu'il faut?
Non, vraiment pas, là. Puis nos policiers, là, puis c'est non seulement moi-même, là, mais mes policiers sont royalement écœurés du police bashing de la part de nos politiciens, qu'ils soient en campagne ou qu'ils soient en poste, là. Bon, ben, nos policiers font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et non seulement ça, le métier de policier est le plus réglementé au Québec. Il y a plein d'instances pour se plaindre et des jugements hâtifs de la part des politiciens qui ne connaissent même pas les interventions à partir du début. Je ne vous cache pas que nos policiers et policières trouvent ça très cheap.
M. Francœur, merci. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Yves Francœur est le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal.